الشرقية
Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, on se retrouve pour vous amener pour une heure en Palestine. Tout d'abord, un peu d'actualité sur ce qui va se passer dans notre petite ville dans les semaines qui viennent, enfin en tout cas dans les jours qui viennent. Samedi 5 mars, samedi, à partir de 13h, une formation à la campagne BDS organisée par les membres de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions de l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international, va avoir lieu au 1 rue Espérandieu. Vous aurez tous les renseignements en allant sur les sites des associations Marseille-Gaza-Palestine, sur la page Facebook de Marseille-Gaza-Palestine ou sur la page de Palestine de BDS Provence. Pardon. Le 8 mars, Marseille-Gaza-Palestine participe à la journée de lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars 2022, il y a en effet, comme chaque année, des manifestations pour la journée de résistance, de lutte des femmes. Et cette année, les luttes féministes vont se retrouver sur le Vieux-Port pour rendre visible la puissance de leur lutte. Donc rendez-vous soit à partir de 14h, 15h sur le Vieux-Port et puis à 17h30 aura lieu une marche à partir du Vieux-Port. Donc. Le 12 mars de 14h à 17h, Marseille-Gaza-Palestine participera sous l'ombrière au Rassemblement pour le climat et la justice sociale. Et de 14h à 17h, et puis une autre information, toujours le 12 mars, à partir de 16h, à la librairie Beaupetit, vous pourrez écouter de la musique, de la poésie palestinienne. Il est prudent de réserver à l'avance, car du fait encore de cette maudite épidémie, le nombre de places est restreint. Alors, comment parler de l'actualité sans aborder ce qu'il se passe aujourd'hui à quelques milliers de kilomètres de notre ville, en Europe, en Ukraine, avec l'invasion de ce pays par l'armée de Poutine? Eh bien, Marseille-Gaza-Palestine ne peut que dénoncer l'invasion de l'Ukraine et se joindre à toutes les voix qui appellent au cessez-le-feu immédiat, aux négociations, au retrait des troupes russes et à la paix, à la justice dans cette région, comme partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Cependant, Marseille-Gaza-Palestine n'oublie pas le soutien indigne apporté par les autorités ukrainiennes à l'apartheid israélien et sa violation du droit international en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État colonial israélien. Ce que dit Edouard Dolinsk, chef du comité juif ukrainien, pendant des années, a documenté sans relâche la glorification actuelle des nationalistes et fascistes ukrainiens qui ont collaboré avec Hitler. Il a tweeté cela il y a à peine 2 semaines. Allez voir sur son... Suivez-le sur Twitter, allez voir sur sa page. Il s'appelle Edouard, E-D-U-A-R-D, Dolinsk, D-O-L-I-N-S-K. Des lectures annuelles de Bandera. Alors, Stepan Bandera, c'était un collaborateur de l'Allemagne nazie. Il a créé la Légion ukrainienne sous commandement de la Wehrmacht et il a été assassiné en Suisse où il avait trouvé refuge en 1959, certainement par des soviétiques. Donc, Edouard Dolinsk nous dit « Des lectures annuelles de Bandera ont lieu à Kiev au musée Maïdan. L'événement de cette année est dédié au monde des idées de Stepan Bandera et aux défis modernes. Les idées principales de l'ultranationaliste ukrainien de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera, étaient le nettoyage ethnique des Polonais et le meurtre des Juifs. Nous ne l'oublions pas. Et ce que nous n'allons pas oublier non plus, ce sont tous ces appels au boycott sportif, culturel, politique, économique de la Russie, ce qui est justifié aujourd'hui vu l'état de belligérance, vu l'agression russe contre l'Ukraine, mais aussi de tout le peuple russe. Chose paradoxale, nous qui entendons si souvent les belles âmes nous dire qu'il ne faut pas boycotter l'État d'Israël qui pourtant pratique l'apartheid, nous entendons aussi certaines voix venues de l'extrême gauche pour nous dire qu'il faut penser qu'il y a des travailleurs israéliens aussi qui sont gentils. Eh bien, aujourd'hui, on appelle à boycotter, y compris les artistes russes, y compris du Tchaïkovski, parce qu'il était russe. On est en train de sombrer dans la folie. Il y a un boycott d'un État qui viole le droit international qui s'impose, effectivement. Mais il y a des limites à vouloir mettre sur le dos du peuple russe qui, dans son immense majorité, est victime de son dictateur, des crimes dont, visiblement, il refuse de porter la responsabilité à travers des manifestations qui ont lieu un peu partout sur le territoire de la Russie. Et qui est-ce qui aujourd'hui appelle au boycott et exige, par exemple, que la Russie n'aille pas au Qatar pour la Coupe du Monde ? Eh bien, ce sont les mêmes qui, par exemple, comme le dit le président de la FIFA, veulent organiser une Coupe du Monde partagée entre Israël et un quelconque État du Golfe, un roitelet du Golfe. Donc, on ne peut pas avoir une indignation sélective et nous notons tout cela et nous saurons le rappeler au bon moment à tous ceux qui veulent criminaliser le boycott d'un État qui, depuis 70 ans, viole le droit international parce que cet État est un État israélien qui est allié de l'Europe, de l'Occident. Donc nous prenons bonne note de tout ça. Nous appelons, nous aussi, à respect du droit international de la même manière par les Russes, par le gouvernement russe que par le gouvernement israélien. Voilà. Ceci étant, nous allons continuer sur la Palestine avec, malheureusement, les dernières nouvelles qui datent d'hier, on peut dire, puisque les autorités israéliennes, l'armée israélienne a tué 3 Palestiniens hier, mardi, dans 2 incidents distincts en Cisjordanie occupée, portant à 15 le nombre total de Palestiniens tués par Israël depuis le début de cette année. Ce sont d'abord 2 Palestiniens, dont un adolescent, lors d'un raid nocturne de mardi dans le camp de réfugiés de Jenin. Vous savez, celui qui a été si violemment frappé par des bombardements et quasiment détruit en 2002. Dans le nord de la Cisjordanie, les 2 Palestiniens ont été identifiés par les médias palestiniens comme étant Abdullah Al-Oussari, 22 ans, et Shadi Najim, 18 ans. Ils ont été mortellement blessés par des balles dans la tête. Le raid sur le camp a déclenché des affrontements avec les habitants qui ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces armées israéliennes. L'agence de presse Wafa a rapporté que les forces spéciales israéliennes ont fait éruption dans plusieurs maisons, ont occupé leurs toits et ont ouvert le feu sur les jeunes locaux qui protestaient contre le raid. Quelques heures plus tard, mardi après-midi, les forces israéliennes ont abattu un autre jeune Palestinien dans la ville de Beit Fajar, au sud de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie. Le jeune homme, identifié comme étant Ammar Abu Afifa du camp de réfugiés voisin d'Aroub, a été abattu lui aussi d'une balle dans la tête par les forces israéliennes près de l'entrée de la ville. Les soldats auraient également saisi le corps d'Afifa et ne l'ont pas rendu à sa famille. Israël, l'État d'Israël, les autorités israéliennes gardent captifs les cadavres des jeunes Palestiniens qu'ils ont abattus. Ce n'est pas le premier. La semaine dernière, les forces israéliennes ont tiré et tué Mohamed Rez Salah, 13 ans, dans le bourg d'Al-Qader, au sud de Bethléem, a confirmé l'organisation Defense for Children International, section de Palestine. Selon ces informations, le gamin a été tué près du mur de séparation israélien qui sépare Al-Qader de la route 60, une autoroute importante utilisée par les colons israéliens. Al-Qader est situé près d'un poste de contrôle militaire, un checkpoint israélien permanent, reliant la Cisjordanie à Jérusalem-Est occupée. L'armée israélienne a affirmé que les soldats avaient tiré sur Salah alors qu'ils lançaient un cocktail Molotov sur des voitures, alors que sa famille, elle, déclare qu'il se trouvait à 300 mètres du mur lorsqu'il a été abattu et qu'il ne représentait pas de danger significatif pour l'armée ou les colons. Au moment où il a été abattu. Des photos publiées sur les pages de médias palestiniens auraient montré un Salah sans vie et ensanglanté, allongé sur le sol, dépouillé de ses vêtements, avec un soldat israélien armé debout au-dessus de lui. Selon les médias palestiniens, les forces israéliennes ont empêché les ambulances d'arriver sur les lieux. Les forces israéliennes ont temporairement détenu le corps de Salah, le rendant à sa famille pour l'enterrement mercredi après-midi. Selon Defense of Children International, section de Palestine, Israël détient actuellement les corps de 9 enfants palestiniens après les avoir tués, conformément à la politique de l'État consistant à utiliser les corps palestiniens comme monnaie d'échange. Salah est le deuxième enfant assassiné depuis le mois de février, puisque Mohamed Abou Salah, 16 ans, a été tué par balle le 14 février lors d'un raid israélien sur le village de Silat al-Aritiya à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Passe tout de suite un rappel de ce que nous disait Amnesty International dans son rapport. Ce rappel est destiné précisément aux irresponsables français, dont le président, le premier ministre, mais aussi certains candidats aux élections présidentielles, tels que Pécresse, Jadot, qui réfutent le rapport d'Amnesty International, pourtant précédé de ceux de Human Rights Watch et B'Tselem, et le ministre de l'Intérieur, Darmanin, se lance dans la dissolution du comité d'action palestine de Bordeaux et du collectif Palestine de Incra de Toulouse, qui sont deux collectifs qui dénoncent les crimes de l'apartheid israélien. La prétention faite par Darmanin que ces comités seraient antisémites est absolument ignoble, parce que c'est faux. Mais en plus, il existe en France des lois pour lutter contre l'antisémitisme. Et ce que l'on se demande, c'est pourquoi, si effectivement ces deux collectifs, ce collectif, ce comité, étaient antisémites, pourquoi l'État français n'utilise pas la loi pour les faire condamner, plutôt que de passer par la dissolution, arme des faibles, parce que c'est tellement plus facile de dissoudre un collectif ou un comité, plutôt que d'aller devant la justice, où là, les faits seront exposés, défendus, et où il y aura une décision de justice. Mais c'est le choix de Darmanin, et une pétition circule actuellement sur Internet. Alors Darmanin a bien précisé qu'il faisait ça à la demande du président Macron, et le premier ministre Castex est allé faire amende honorable devant, lors du dîner du CRIF, en précisant que, bien évidemment, il n'y avait pas de raison de penser que l'État d'Israël pouvait être un État d'apartheid. C'est-à-dire que ces deux ou trois personnages, qui ne connaissent absolument rien au droit international, s'autorisent à juger de ce que peut publier la première organisation de droits humains au monde, qui, après 4 ans d'enquête, après avoir été sur le terrain, après avoir vérifié auprès d'autres organisations, et à la suite de l'organisation internationale mondialement connue Human Rights Watch et de l'organisation israélienne B'Tselem, affirme la même chose: l'État israélien pratique l'apartheid sur l'intégralité du territoire de la Palestine historique et à l'encontre de la totalité du peuple palestinien, qu'il soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie ou en exil, frappé de l'interdiction du droit au retour depuis 70 ans. Nous allons continuer donc sur ce texte d'Amnesty. On va le disséquer, ce texte, quand même, parce que c'est important. Alors ça, c'est la synthèse du rapport qui fait 280 pages et qui revient sur l'apartheid dans le droit international. Parce que dire qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a un état d'apartheid, c'est déjà ne pas parler de la définition de l'apartheid. L'apartheid, c'est une violation du droit public international, une grave violation des droits humains garantis par le droit international, ainsi qu'un crime contre l'humanité en vertu du droit pénal international. Les trois grands traités internationaux suivants interdisent et ou érigent explicitement en infraction l'apartheid. Ce sont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, c'est-à-dire c'est la Convention sur l'apartheid, et le statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire plus connu sur le statut de Rome. Le crime contre l'humanité, qui est le crime d'apartheid, selon la Convention sur l'apartheid, le statut de Rome et le droit international coutumier, est constitué lorsque des actes inhumains, essentiellement de graves violations des droits humains, sont commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique d'un groupe racial sur un autre groupe racial, dans l'intention de maintenir ce régime, en d'autres termes, dans un régime d'oppression et de domination, un traitement discriminatoire systématique, prolongé et cruel, est infligé par un groupe racial d'êtres humains à un autre, dans le but de contrôler ce second groupe. Ainsi, le crime contre l'humanité d'apartheid est constitué quand de graves atteintes aux droits humains sont perpétrées dans le contexte d'un régime ou système de contrôle discriminatoire, prolongé et cruel, infligé à un ou plusieurs groupes raciaux par un autre, avec l'intention spécifique d'entretenir le dit régime ou système. Le cadre de l'apartheid, tel qu'il est défini dans le droit international, décrit de façon complète et détaillée une situation de ségrégation, d'oppression et de domination infligée donc par un groupe racial sur un autre. Amnesty International note et souligne que les systèmes d'oppression et de domination ne sont jamais identiques. Par conséquent, il ne s'agit pas de faire valoir ou de déterminer si un quelconque système d'oppression et de domination, tel que celui en place en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, est par exemple identique ou comparable au système de ségrégation, d'oppression et de domination qui a existé en Afrique du Sud entre 1948 et 1994. Pour déterminer si Israël a créé et perpétué un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique, Amnesty International a examiné, a analysé le contrôle exercé par Israël sur le peuple palestinien. Amnesty International a également examiné un certain nombre de graves atteintes aux droits humains susceptibles de répondre à la qualification de crimes contre l'humanité d'apartheid si elles sont commises en vue d'entretenir le dit système d'oppression et de domination. Donc ce qui est bien précisé dans cette partie, c'est qu'il n'y a pas lieu de comparer avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, car l'apartheid tel qu'il est défini par le droit international ne compare rien avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il définit comme ces violations graves, cruelles et prolongées, exercées par un groupe dominant sur un groupe dominé, en vue de perpétrer la situation de discrimination. Et donc, c'est ce que les 4 ans d'enquête d'Amnesty International ont démontré. D'abord, la volonté d'opprimer et de dominer la population palestinienne. Les Palestiniens ne sont traités différemment par l'État d'Israël car il leur confère un statut racisé, arabe et non juif, et les considère en outre comme un groupe doté de caractéristiques spécifiques différentes d'autres groupes non juifs. Concernant les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël, le ministère israélien des Affaires étrangères les qualifie officiellement de citoyens arabes d'Israël, un terme qui englobe plusieurs groupes majoritairement arabophones, notamment les Arabes musulmans, ce qui comprend les Bédouins, mais aussi les Arabes chrétiens, les Druzes et les Circassiens. Toutefois, dans les débats publics, les autorités et les médias israéliens ne comprennent bien souvent que les Arabes musulmans et les Arabes chrétiens, ces deux groupes qui s'identifient généralement comme palestiniens ou palestiniennes. Lorsqu'ils parlent d'Arabes israéliens, ils les associent aux Palestiniens ou aux Palestiniennes vivant dans les territoires palestiniens occupés et ailleurs, tandis qu'ils utilisent les termes spécifiques de Druze ou de Circassien pour désigner les autres groupes non-juifs. Donc, fragmentation de la population. Les autorités considèrent également de manière flagrante les citoyens et citoyennes palestiniennes d'Israël comme faisant partie d'un groupe distinct de juifs et de circassiens, car ce groupe est le seul exempt du service militaire, en raison de leur affiliation familiale, religieuse et culturelle avec le monde arabe, ainsi qu'en raison de craintes liées à d'éventuelles doubles allégeances. En mai 1948, la déclaration portant création de l'État d'Israël a annoncé un État juif. Si le texte garantit officiellement une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, ce droit n'a pas été inscrit dans les lois fondamentales qui ont force de constitution en l'absence de constitution écrite. En plus d'établir Israël comme un État juif, la déclaration de 1948 a également appelé les personnes juives du monde entier à immigrer en Israël. En 1950, Israël a accordé à toute personne juive le droit d'immigrer en Israël au titre de la loi sur le retour, avant de leur accorder le droit automatique à la citoyenneté israélienne par la loi de 1952 relative à la nationalité. Par contre, les autorités israéliennes ont en partie considéré qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour empêcher toute nouvelle tentative d'extermination du peuple juif à la suite de la Shoah et pour apporter un refuge aux juifs et aux juifs subissant des persécutions ailleurs dans le monde. Mais parallèlement, des centaines de milliers de réfugiés palestiniens déplacés pendant le conflit de 1947-1949 n'ont pas été autorisés à rentrer chez eux en raison de considérations démographiques. Le fondement de ce système d'oppression et de domination infligé à la population palestinienne a été ancré sans équivoque dans la loi sur l'État-nation de 2018, qui a consacré le principe voulant que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif et indiquant que le droit à l'autodétermination est réservé au peuple juif, c'est-à-dire accordant des droits différents selon que l'on soit palestinien ou juif, arabe comme ils disent, ou juif. L'intention de dominer et de contrôler la population palestinienne dans les territoires palestiniens occupés est tout aussi claire au vu des politiques discriminatoires en matière de foncier, d'aménagement du territoire et de logement, et au vu de l'entrave à toute forme de développement agricole ou industriel au profit de la population palestinienne. Depuis l'annexion de Jérusalem-Est en 1967, les gouvernements israéliens successifs ont défini des objectifs démographiques, quant au ratio de personnes juives et de personnes palestiniennes à l'échelle de Jérusalem tout entière, et ils ont déclaré publiquement que privés de ces droits socio-économique, la population palestinienne de Jérusalem-Est visait délibérément à les chasser de la ville. Amnesty souligne que le démantèlement des colonies israéliennes dans la bande de Gaza, tout en conservant par ailleurs sa mainmise sur la population de ce territoire, a expressément été associé à des considérations démographiques et découle de l'admission qu'Israël ne parviendrait pas à une majorité juive dans la bande de Gaza. Ainsi, des documents officiels rendus publics par le gouvernement israélien démontrent que sa politique d'opposition au retour de millions de réfugiés palestiniens chez eux en vigueur de longue date est également motivée par des considérations démographiques. La ségrégation et le contrôle par le droit. L'emprise d'Israël sur les territoires palestiniens au moyen des ordonnances militaires dans le contexte de son occupation porte à croire à tort que le régime militaire dans les territoires palestiniens occupés est distinct du système civil qui est en vigueur à Jérusalem-Est, annexé et en Israël. Cette perspective néglige totalement le fait que de nombreuses caractéristiques du régime militaire répressif d'Israël dans les territoires palestiniens occupés sont issues des 18 ans de domination militaire d'Israël sur les citoyens palestiniens d'Israël entre 1948 et 1966. Et que la dépossession de la population palestinienne en Israël se poursuit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que la population palestinienne dans le territoire d'Israël, entre 1948 et 1966, il y avait vraiment l'apartheid qui s'appliquait, puisqu'il y avait des lois militaires qui concernaient la population palestinienne et des lois civiles qui concernaient la population juive de l'État israélien. Ce n'est qu'en 1966, à la veille de l'agression contre le reste de la Palestine, que ce régime militaire a été supprimé et que les discriminations, par contre, continuent. Ainsi, les Palestiniens de l'État d'Israël, même s'ils ont des juges et des députés, ne peuvent pas habiter où ils veulent, ne peuvent pas retourner dans leur village qui leur est toujours interdit, qui ont été détruits et ils ne sont pas autorisés à retourner vivre sur les terres de leur village, y compris s'ils ont les titres de propriété. Donc, on le voit bien, il y a discrimination, il y a apartheid. L'existence même, poursuit Amnesty, de ces régimes juridiques distincts est toutefois l'un des principaux instruments grâce auxquels Israël fragmente la population palestinienne et impose son système d'oppression et de domination. Selon la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, la CESAO de l'ONU, c'est ce qui permet de dissimuler l'existence même du régime israélien d'apartheid. En effet, les politiques israéliennes visant à fragmenter la population palestinienne en plusieurs sphères de contrôle géographique et juridique, non seulement pour qu'elles soient traitées différemment ou isolées de la population juive, mais aussi pour créer des différences de traitement au sein de la population palestinienne, afin d'affaiblir les liens entre les groupes de Palestiniennes, c'est d'éliminer toute forme de dissidence durable contre le système en place et de veiller à un contrôle politique et sécuritaire plus efficace des territoires et des personnes sur l'ensemble des zones concernées. Est-ce que vous pouvez simplement imaginer que des familles séparées entre Gaza et la Cisjordanie ou entre Gaza et Jérusalem ne peuvent ne plus se voir depuis au moins 15 ans? Et avant, elles pouvaient se voir à condition d'avoir des permis, mais c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Donc cette fragmentation est vraiment une violation des droits élémentaires du peuple palestinien. Nous allons maintenant faire une petite pause. Petite pause, non, assez longue, parce qu'entre-temps, nous allons essayer de joindre un correspondant à Gaza, Iyad Al-Aslal, qui est un réalisateur francophone, et avec lequel nous allons essayer de dialoguer un petit moment.
Qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. il veut imposer la terreur. Mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela.
Donc vous avez entendu Dominique Grange. Oui, c'était Dominique Grange qui chantait « Abattons le mur ». Et maintenant, nous sommes en direct avec Iyad Alassal depuis Gaza. Bonsoir Iyad.
Bonsoir tout le monde.
Tu es sur Radio Galère avec l'émission Une heure en Palestine. Alors, nous on te connaît bien, mais on va te demander de te présenter pour les auditeurs de la radio.
Ok. En fait, je suis Iyad Alassal, réalisateur palestinien de Gaza. Je suis francophone, donc j'ai fait mes études de français ici à Gaza en 2009. Et puis, j'ai fait mes études de cinéma en Corse. Et du coup, voilà, depuis, donc, je réalise à Gaza sur le quotidien. À part ça, donc, je réalise Gaza Stories. Peut-être que parmi les auditeurs, ils ont déjà visité, ils ont vu Gaza Stories. Donc, c'est une série de webdocs sur la vie quotidienne à Gaza. Donc, une série hebdomadaire qu'on publie chaque vendredi pour montrer Gaza autrement, parce que Gaza, ce n'est pas vraiment qu'un champ de ruines, des bombardements, etc. Mais non, il y a Gaza, une vie quotidienne. Donc, à travers vraiment le cinéma, à travers l'audiovisuel, j'essaie vraiment de montrer la vie quotidienne à travers des courtes vidéos de 3 à 5 minutes. Et voilà, pour donner vraiment une idée, qu'est-ce que c'est la vie à Gaza.
Alors, tu peux peut-être aussi nous parler des deux moyens-métrages que tu as réalisés. Et puis, ils ont été proposés dans des différents festivals en Europe, y compris, mais dans le monde arabe. Et ils ont été primés, me semble-t-il.
Oui, bien sûr. Donc, pour juste l'information, donc, jusqu'à maintenant, j'ai réalisé sur laquelle vraiment je suis fier. Donc, le premier documentaire que j'ai réalisé s'appelait Donne un bois sur un homme, que j'ai réalisé en de mes études là-bas. Donc, le deuxième film s'appelait Taxi. A woman bus driver, donc c'est-à-dire la conductrice de bus, une femme à Gaza qui exerce un métier pour les hommes entre parenthèses. Et du coup voilà. Et troisième film, c'était Razan, une trace de papillon, en hommage à l'infirmière palestinienne qui était assassinée à la grande mamie israélienne. Et le quatrième documentaire que j'ai réalisé, donc Gaza balle au pied, un film documentaire où j'ai accompagné une équipe de footballeurs amputés de Gaza, des footballeurs amputés à cause des tirs de l'armée israélienne. Du coup, voilà, ces jeunes footballeurs, ils faisaient du football avec des béquilles. Donc, j'ai fait en France lors d'une rencontre amicale.
Alors, il y a des coupures, des brèves coupures. Tu peux reprendre là
Oui, donc le quatrième documentaire s'appelait Gaza balle au pied. Donc, il parle vraiment d'une équipe de footballeurs amputés de Gaza. Donc, une équipe de footballeurs amputés à la suite de tirs de l'armée israélienne sur des jeunes pacifiques, sur des gens manifestants qui étaient voilà tirés par l'armée israélienne. Et voilà, j'ai accompagné cette équipe, j'ai filmé cette équipe à Gaza et en France lors d'une rencontre amicale et sportive avec l'équipe française pour le football des hommes potés. Voilà, ces quatre films jusqu'à maintenant, vraiment, ils ont réussi de voyager dans des festivals. Donc, le dernier film, par exemple, Gaza balle au pied, il a été primé dans plusieurs festivals en Égypte, au Liban et en France et en Italie. Et c'est pareil pour les autres films. Donc voilà les films documentaires que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Voilà, ils ont réussi de franchir la frontière malgré le blocus israélien pour représenter Gaza, pour représenter la Palestine et montrer vraiment qu'est-ce que c'est vraiment la vie à Gaza, qu'est-ce que c'est le rôle de la femme, qu'est-ce que c'est la jeunesse à Gaza.
Oui, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de tes vidéos hebdomadaires sur la bande de Gaza?
Mes courtes vidéos ou mes films donc sur la vie quotidienne donc voilà, elles traitent vraiment tous les aspects de la vie quotidienne à Gaza. Par exemple, la semaine dernière, donc il y avait docteur Christophe Oberlin, le chirurgien français. Donc il était à Gaza pour une mission vraiment sur pour traiter et pour opérer des jeunes palestiniens, des Palestiniens. Donc je l'avais accompagné pendant 2 jours pour filmer ce docteur quand il fait des opérations avec des équipes palestiniennes. Donc je l'avais accompagné quand elle a fait 10 visites à Gaza, parce que docteur Oberlin, elle a fait par exemple un livre sur les chrétiens de Gaza et un autre livre je pense sur vraiment les lieux historiques à Gaza. Donc voilà, j'essaie vraiment de montrer vraiment l'autre image à Gaza. À part ça, donc j'ai filmé l'autre jour par exemple des jeunes qui font du skateboard à Gaza. Donc des jeunes vraiment qui font du skateboard avec de moindres de choses, avec des moyens simples, où on voit vraiment ces gens déterminés qui essayent vraiment de vivre leur vie malgré la colonisation, malgré l'occupation israélienne. Donc je ne peux pas peut-être citer vraiment tous les thèmes que j'ai fait à Gaza Stories, mais n'importe quel sujet que vous pensez qui existe en France, par exemple sur les femmes, sur les métiers, sur l'artisanat, etc. Donc ça existe aussi à Gaza. Donc j'essaie vraiment avec Gaza Stories de montrer ces différents aspects sur la vie quotidienne à Gaza.
Alors moi j'invite tous les auditeurs à se rendre sur la chaîne YouTube, sur ta chaîne YouTube Gaza Stories, pour aller voir tous ces films. Tu en es à la troisième saison. Et il y a aussi beaucoup de projets que tu as d'élargir avec de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a en ce moment une cagnotte sur Eloasio pour aider à la réalisation de ces projets. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce que vous aimeriez faire?
Oui, en fait, voilà, Gaza Stories, elle est née depuis le mois de mars 2019. On est maintenant au mois de mars 2022. Donc, ça fait 3 ans que je fais des films et des vidéos sur la vie quotidienne à Gaza et qu'on partage d'une façon régulière, c'est-à-dire chaque vendredi. Mais là, vraiment, j'ai envie vraiment d'élargir ce projet, c'est-à-dire, voilà, de faire d'autres choses vraiment, d'intégrer d'autres choses vraiment dans ce projet. Dans Gaza Stories, c'est-à-dire voilà, j'aimerais bien vraiment recruter plus de jeunes francophones pour en direct ici à Gaza avec des jeunes francophones qui peuvent présenter des émissions, des programmes par exemple. On a envie aussi de varier un peu le travail de Gaza Stories, parce que nous on fait des courtes vidéos de 3 à 5 minutes. On a envie vraiment de dépasser vraiment cette format, c'est-à-dire de faire vraiment des formats de documentaires. On a envie aussi de former des jeunes, en fait, il y a, surtout des francophones à Gaza, parce qu'en fait, la francophonie à Gaza, ça existe, mais malheureusement, donc les diplômés qui font leurs études en français, donc ils ne trouvent pas vraiment dans le marché de travail, c'est ce qu'ils font pour qu'elle travaille. Du coup, elle cherche de faire la même chose comme moi, c'est-à-dire d'apprendre l'audiovisuel, d'apprendre le média, le journalisme. Donc, on essaie vraiment de recruter plus de jeunes francophones à Gaza pour les intégrer dans le domaine du média à travers vraiment Gaza Stories. Donc, il y a, donc, on ne veut pas vraiment rester sur le format de Gaza Stories actuel. On a envie vraiment de faire plus que ça. Et pour ça, on a lancé vraiment cette cagnotte pour redémarrer Gaza Stories d'une autre façon. Et donc, cet relancement, donc, il était fait vraiment grâce, quand je parle de relancement, c'est-à-dire la cagnotte. Donc, c'était fait vraiment, c'était soutenu par plusieurs collectifs de solidarité en France. Donc, il y a collectif Marseille-Palestine, collectif l'ONG française pour la paix, l'association France-Palestine Solidarité, collectif Martigues-Palestine, les Amis de l'art et de la culture de Palestine, collectif Présence palestinienne. Donc, voilà, il y a quoi vraiment à tenir dans ce projet. Et pour ça, vraiment, je fais un appel auprès vraiment de vous pour soutenir Gaza Stories, parce que ça vaut le coup. Et avant de se tenir, je vous invite vraiment d'aller visiter Gaza Stories sur YouTube, sur Facebook, pour visionner, pour regarder la qualité de travail qu'on essaie vraiment de transmettre dans le monde francophone.
Alors allez tous et toutes sur la page Facebook de Gaza Stories, STORIES. Allez aussi sur la chaîne YouTube Gaza Stories et puis venez sur la page Facebook Marseille Gaza Palestine où il y a y compris l'appel pour soutenir financièrement Gaza Stories, mais aussi régulièrement tous les vendredis on essaye de mettre un des films, une des vidéos faites par Yad et par toute l'équipe de Gaza Stories. Maintenant Yad, peux-tu nous donner juste pour terminer quelques nouvelles de la situation sur Gaza actuellement?
Ben, en fait, malheureusement, donc quand on parle vraiment de la situation à Gaza, donc la situation à Gaza, elle est paralysée comme toujours. Donc il n'y a pas vraiment d'avancement sur le plan de levée du blocus israélien, sur l'amélioration de la vie quotidienne à Gaza. Donc il y a toujours le blocus israélien qui maintient, qui dégrade tous les aspects de la vie quotidienne à Gaza. Et c'est la situation vraiment c'est paralysée, mais en fait cette paralysie elle va peut-être créer une vague de protestations contre l'armée israélienne, c'est-à-dire les factions palestiniennes elles vont pas rester comme ça, donc elles vont appuyer et mettre la pression sur l'occupation israélienne pour qu'elle décide ou pour lever le blocus israélien. Aujourd'hui, en Cisjordanie et surtout à Sheikh Jarrah, depuis hier, il y a eu 4 morts. Donc la situation n'est pas facile jusqu'à maintenant. Si on revient vraiment sur le plan de la situation à Gaza, la situation économique s'est très dégradée. La situation politique, c'est pareil, donc c'est paralysé. Il n'y a pas vraiment d'avancement sur les engagements de l'occupation israélienne pour lever le blocus israélien. Malheureusement, tous ces éléments, ils vont déstabiliser la situation. Et Gaza, vraiment, elle souffre aussi vraiment de cette blocus israélienne. Et donc, il faut vraiment que tout le monde réagisse, tout le monde proteste, tout le monde prend vraiment sa responsabilité auprès de ce qui se passe à Gaza. On sait très bien et on a vu comment vraiment le monde aujourd'hui il soutient la crise en Ukraine et contre l'invasion russe. Mais en fait, il y a l'occupation israélienne qui dure depuis plus de 70 ans. Donc, et on pose la question pourquoi la communauté internationale s'intervient et soutient la position de l'Ukraine aujourd'hui, mais elle ne soutient pas vraiment le droit du peuple palestinien. Donc, c'est le moment vraiment pour penser aussi au peuple palestinien parce que la souffrance, elle doit terminer tout simplement.
Merci beaucoup Yad, parce que nous aussi ici, nous sommes profondément choqués par, non pas par la réaction de l'Europe par rapport à l'Ukraine, comme tu le dis, parce qu'il est important de soutenir les peuples agressés et dénoncer les agressions, mais par le deux poids deux mesures, par l'indifférence qu'il y a par rapport à ce qui se passe lorsque c'est Israël qui est l'agresseur, lorsque c'est Israël qui viole le droit international, lorsque c'est Israël qui commet le crime d'apartheid, la différence qu'il y a de traitement avec lorsque c'est un autre pays, en particulier la Russie, dans le cas qui nous concerne actuellement. Merci beaucoup, Iyad. Salut tous les gens que nous connaissons, puisque il y a très peu de temps, tu étais à Marseille avec nous. Tu as eu l'occasion de visiter la ville, de partir depuis les réformés jusqu'au Mucem, au moins, et puis ces grandes balades dans la ville. On espère vous y retrouver bientôt, toi, l'équipe de foot, et puis on se retrouvera sur les ondes de Radio Galère prochainement. Voilà, merci beaucoup encore et à bientôt.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions, vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Voilà, vous venez d'entendre Iyad Alastal depuis Gaza. La qualité du son n'était pas forcément idéale. Vous savez que ce n'est pas simple, tous les réseaux sont sous contrôle israélien. Donc il y avait des mini-coupures par moment. J'espère que c'était tout de même audible. Vous êtes toujours sur Radio Galère, il est 18h46. On va continuer justement sur ces violations à travers un article intitulé « Quotidiennement ». Les Palestiniens sont confrontés à la violence des colons. C'est Abou Ali, un agriculteur du village de Sinjel, dans le district de Ramallah, qui a subi la violence des colons depuis des années. Lui et d'autres agriculteurs, dont les terres sont adjacentes aux colonies illégales israéliennes environnantes, sont agressés chaque fois qu'ils vont s'occuper de leurs terres. Il y a quelques jours, raconte Abou Ali, des colons israéliens fanatiques, affiliés à cette organisation qui en anglais s'appelle Eltopios, c'est-à-dire les Jeunes des Collines, une organisation fascisante pour ne pas dire fasciste, ont durement battu un agriculteur palestinien alors qu'il plantait des oliviers sur ses terres. Sa survie a été un miracle. Le village de Sinjel est entouré par les colonies illégales de Shiloh, Shivut, Maale Libouna, Eli et Raël. Les colons israéliens cherchent à couper les liens des Palestiniens avec les terres agricoles restantes qu'ils n'ont pas encore pris en charge pour étendre les colonies. La violence des colons armés, sous la protection des soldats israéliens prêts au combat, est un incident quotidien que les Palestiniens de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, rencontrent. Dans le village d'Al-Louban al-Shakir, dans le district de Naplouse, des colons israéliens harcèlent les élèves palestiniens du village qui vont et reviennent de l'école, soutenus par des soldats armés. Les colons bloquent habituellement l'accès des élèves à l'école. Parfois, des centaines d'étudiants manquent leurs cours en raison des restrictions imposées par Israël à leur mouvement. En réponse à cela, les Palestiniens ont organisé une manifestation dans le village. Les soldats israéliens ont réprimé les manifestants en tirant des gaz lacrymogènes contre eux. 4 manifestants ont été blessés par des bombes lacrymogènes. Alors que les colons illégaux attaquent quotidiennement le village Al-Luban al-Sharqiya, agressent les Palestiniens et pratiquent des rituels religieux car revendiquent un droit divin sur le village. Vous le savez peut-être, l'armée israélienne a pour consigne de ne jamais intervenir pour réprimer les colons, y compris lorsqu'ils ont même des actes de violence, lorsqu'ils tirent eux-mêmes, puisque les colons sont armés, sur les Palestiniens. Ce n'est que si le colon s'en prend à un soldat israélien et que celui-ci se trouve en légitime défense qu'il peut intervenir, mais ils n'ont certainement pas le droit de tirer sur un colon. Par contre, tirer sur un Palestinien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des balles dans la tête sur des adolescents ou sur de jeunes adultes, ça n'est absolument pas un problème, puisque dans les différents rapports qui ont été publiés, il est noté que quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, un soldat israélien qui a assassiné un jeune Palestinien ou une jeune Palestinienne n'est poursuivi, et s'il est poursuivi, il est quasiment jamais condamné, ou à des peines tellement légères qui, par la suite, bénéficient d'amnistie, de réduction de peine. Ce qui fait que lorsqu'on a, comme ce fut le cas à Hébron, un colon franco-israélien qui tire sur un blessé à terre, ce qui constitue un crime de guerre, eh bien, au bout de quelques mois, il sort de prison et il est porté en triomphe sur les épaules de ses supporters. Donc, je reviens sur l'article. À Jérusalem, la théologie est aussi utilisée pour justifier l'appropriation israélienne de l'histoire, de la culture et de la terre palestinienne. Dans le cadre des tentatives incessantes d'Israël de judaïser Jérusalem, des dizaines et parfois des centaines de colons israéliens envahissent régulièrement l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. La semaine dernière, par exemple, 900 colons fanatiques ont pratiqué des rituels talmudiques dans la mosquée et harcelé des fidèles palestiniens alors qu'ils étaient escortés par les soldats israéliens. En envahissant ainsi la mosquée Al-Aqsa, les autorités israéliennes de l'occupation cherchent à diviser cette mosquée entre Palestiniens et Israéliens dans le temps et dans l'espace, à l'instar de la situation actuelle dans la mosquée Ibrahimi à Hébron. Vous vous en souvenez, il y a plusieurs dizaines d'années, un fanatique venu de Brooklyn, le colon Baruch Goldstein, a tiré dans la mosquée d'Abraham à Hébron, en tuant une trentaine de Palestiniens en prière. Et à la suite de ce crime, il a été lui-même abattu, et la répression israélienne sur les Palestiniens qui manifestaient a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Ensuite, après ce massacre, eh bien, la mosquée a été partagée en deux pour devenir aussi un lieu de prière pour les colons, qui sont pour la plupart des gens d'extrême droite, pour ne pas dire des fascistes, qui sont installés à Hébron. Alors que des dizaines de colons israéliens envahissaient la mosquée d'Al-Aqsa, donc, d'autres ont protesté devant le tribunal israélien pour soutenir l'assassin israélien d'Iyad al-Alak à Jérusalem. Iyad, 32 ans, est un Palestinien autiste qui a été abattu par un soldat israélien dans la vieille ville de Jérusalem en mai 2020. Et cet assassinat a eu lieu alors que la personne qui accompagnait Iyad, eh bien, criait aux colons, il est malade, c'est un autiste, ne tirez pas sur lui. Et malgré tout, ils ont tiré et ils l'ont assassiné. Donc, la manifestation de soutien à cet assassin a été convoquée par Itamar Ben-Gvir, le membre israélien de la Knesset qui a décidé de déplacer son bureau en installant une tente sur les terres de la famille Salem à Sharjara. Depuis plus de 13 jours qu'il a installé la tente, les colons israéliens et les soldats continuent d'attaquer brutalement les Palestiniens dans le quartier. La famille Salem est l'une des dizaines de familles palestiniennes menacées par un nettoyage ethnique israélien imminent à Sharjara. Bien que le tribunal israélien ait décrété un gel sur l'expulsion de cette famille, expulsion qui devait avoir lieu aujourd'hui, 2 mars, la famille reste menacée d'expulsion à tout moment. Non loin de Jérusalem, dans le village de Izma, un colon israélien a ouvert le feu sur un véhicule palestinien et blessé deux frères qui étaient à l'intérieur du véhicule le 25 février. Mohamed et Jawad Abu Khadija, du camp de réfugiés de Shoufat à Jérusalem, ont expliqué qu'ils avaient eu un accident de la circulation avec un colon israélien près du poste de contrôle de Izma. Immédiatement après l'accident, le colon israélien qui tenait un fusil a tiré sur Mohamed dans l'abdomen et sur Jawad pour le blesser au pied. À raison des attaques de colons sanctionnées par l'État et de la violence des soldats israéliens, les Palestiniens sont privés de tout sentiment de sécurité. Des actes de violence quotidiens coordonnés entre les colons et l'armée visent à cimenter et à intensifier la prise de contrôle des terres palestiniennes. Et comme il nous reste 3 minutes, pour terminer, je vais vous livrer un message de la campagne Stop the Wall, arrêtez le mur. Voilà ce qu'il dit. Nos décennies de lutte pour l'autodétermination a été un combat pour faire triompher et prospérer le paradigme mondial de la justice et des droits de l'homme. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une tentative de plus pour normaliser ce qu'Israël et de nombreux autres régimes oppressifs dans le monde ont fait, violer le droit international et tout le cadre des droits de l'homme. Israël continue de masquer son assujettissement des Palestiniens sous son régime d'apartheid avec une image des droits de l'homme en dénonçant et en protestant contre la guerre Russie-Ukraine. Ces derniers jours, nous avons vu des Israéliens descendre dans la rue pour deux raisons différentes. La première était d'exprimer sa solidarité avec l'Ukraine, tandis que l'autre était un soutien à un officier israélien qui a tué un Palestinien autiste, Iyad Alalak, en mai 2020. Les colons ont également intensifié les attaques violentes contre les Palestiniens à travers la Cisjordanie pour s'emparer de leurs terres. Simultanément, dans le Nord mondial, en particulier en Europe, une coalition de dirigeants impose des sanctions à la Russie. La justice est indivisible, affirme Angela Davis. Par conséquent, des sanctions doivent également être imposées à Israël et à d'autres systèmes oppressifs à travers le monde si les gouvernements du Nord veulent vraiment affirmer le respect des droits et de la personne. Actuellement, les Palestiniens appellent les citoyens de l'UE à faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils respectent également les droits de l'homme, les droits humains des Palestiniens. Signez la lettre et dites à votre gouvernement qu'Israël viole également le droit international par la construction de colonies illégales parmi d'autres pratiques et politiques d'apartheid. Alors que la coalition anti-russe Ukraine renforce un monde plus militarisé, nous continuons de mener une campagne anti-militarisation importante contre Elbit System, la plus grande arme israélienne. Les systèmes Elbit ont profité des guerres alimentées à travers les continents. Pour en savoir plus sur cette campagne, la campagne Stop the Wall, allez donc voir sur les réseaux sociaux pour exiger l'urgence d'un embargo militaire sur Israël et à soutenir la Palestine. Alors, on vous le rappelle, plusieurs événements vont avoir lieu. Il nous reste 1 minute, mais allez voir sur la page Gaza Stories, allez voir sur le Facebook, allez voir sur la chaîne YouTube et allez soutenir la campagne Stop the Wall sur les réseaux sociaux en vous renseignant sur ce qui se passe vraiment en Palestine. Voilà, il est 18h56. À la semaine prochaine pour une autre heure en Palestine. Merci à Sidi et à son assistante d'un jour dans la partie technique à côté. Bonne soirée à tout le monde. Bintishalabi.